Chapitre 3. Le jour suivant, Candaule, prenant Gigès à part, continua l'entretien commencé sous le portique des Héraclides. Délivré de l'embarras d'entrer en matière, il s'ouvrit sans réserve à son confident, et si Nicias avait pu l'entendre, peut-être lui aurait-elle pardonné ses indiscrétions conjugales en faveur des éloges passionnés qu'il accordait à ses charmes. Gigès écoutait toutes ces louanges avec l'air un peu contraint d'un homme qui ne sait pas encore si son interlocuteur ne feint pas un enthousiasme plus vif qu'il ne l'éprouve réellement afin de provoquer une confiance lente à se décider. Aussi Candaule lui dit d'un ton dépité « Oh, je vois, Gigès, que tu ne me crois pas. Tu penses que je me vante ou que je me suis laissé fasciner comme un épais laboureur par quelque robuste campagnard dans laquelle Hygie a écrasé sur les joues les grossières couleurs de la santé. Non, de par tous les dieux. J'ai réuni chez moi, comme un bouquet vivant, les plus belles fleurs de l'Asie et de la Grèce, depuis Dédale, dont les statues pariaient et marchaient, et je connais tout ce qu'a produit l'art des sculpteurs et des peintres. Linus, Orphée, Homère m'ont appris l'harmonie et le rythme, et ce n'est pas avec un bandeau de l'amour sur les yeux que je regarde. Je juge de sang-froid. La fougue de la jeunesse n'est pour rien dans mon admiration. Et quand je serai aussi caduque, aussi décrépit, aussi rayé de rides que Titon dans son maillot, mon avis serait toujours le même. Mais je te pardonne ton incrédulité, ton manque d'enthousiasme. Pour me comprendre, il faut que tu contemples Nicia dans l'éclat radieux de sa blancheur étincelante, sans ombre importune, sans draperie jalouse, telle que la nature l'a modelée de ses mains dans un moment d'inspiration qui ne reviendra plus. Ce soir, je te cacherai dans un coin de l'appartement nuptial. Tu la verras. Seigneur, que me demandez-vous ? Répondit le jeune guerrier avec une fermeté respectueuse. Mais comment, du fond de ma poussière, de l'abîme de mon néant, oserais-je lever les yeux vers ce soleil de perfection, au risque de rester aveugle le reste de ma vie, ou de ne pouvoir plus distinguer dans les ténèbres qu'un spectre éblouissant? Oh non, ayez pitié de votre simple esclave. Ne forcez point une action si contraire aux maximes de la vertu. Chacun ne doit regarder que ce qui lui appartient. Vous le savez, les immortels punissent toujours les imprudents ou les audacieux qui les surprennent dans leur divine nudité. Je vous crois, Nicia est la plus belle des femmes, vous êtes le plus heureux des époux et des amants. Héraclès, votre aïeul, dans ses nombreuses conquêtes, n'a rien trouvé qui approchât de votre reine. Si vous, le prince que les artistes les plus vantés prennent pour juge et pour conseil, vous la trouvez incomparable, que vous importe l'avis d'un soldat obscur comme moi? Renoncez donc à votre fantaisie qui, j'ose le dire, n'est pas digne de la majesté royale et dont vous vous repentirez dès qu'elle sera satisfaite. « Écoute, Gigès, reprit Candaule, je vois que tu te défies de moi. Tu penses que je veux t'éprouver. Mais je te le jure par les cendres du bûcher d'où mon aïeul est sorti Dieu, je parle franchement et sans arrière-pensée. Oh, Candaule, je ne doute pas de votre bonne foi, votre passion est sincère. » Mais peut-être, lorsque je vous aurai obéi, concevrez-vous pour moi une aversion profonde et me haïrez-vous de ne pas vous avoir résisté davantage. Vous voudrez reprendre à ces yeux, indiscrets par force, l'image que vous leur aurez laissé entrevoir dans un moment de délire, et qui sait si vous ne les condamnerez pas à la nuit éternelle du tombeau pour les punir de s'être ouverts lorsqu'ils devaient se fermer. « Non, ne crains rien, je te donne ma parole royale qui ne te sera fait aucun mal. » Mais pardonnez à votre esclave, s'il ose encore, après une telle assurance, élever quelque objection. Avez-vous réfléchi que ce que vous me proposez est une profanation de la sainteté du mariage, une espèce d'adultère visuel? Souvent la femme dépose la pudeur avec ses vêtements, et une fois violée par le regard, sans avoir cessé d'être vertueuse, elle peut croire qu'elle a perdu sa fleur de pureté. Vous me promettez de n'avoir aucun ressentiment, mais qui m'assurera contre le coup de Nicia, elle si réservée, si chaste, d'une pudeur si inquiète, si farouche et si virginale qu'on la dirait encore ignorante des lois de l'hymen. Si elle vient apprendre le sacrilège dont je vais me rendre coupable par déférence pour les volontés de mon maître, mais à quel supplice me condamnera-t-elle pour me faire expier un tel crime? Qui pourra me mettre à l'abri de sa colère vengeresse? « Oh, je ne te savais pas si sage et si prudent, » dit Condole avec un sourire ironique. « Mais tous ces dangers sont mes imaginaires, et je te cacherai de façon que Nicia ignora tout jamais qu'elle a été vue par un autre que par son royal époux. » Gigès, ne pouvant se défendre davantage, fit un signe d'assentiment pour montrer qu'il donnait les mains aux volontés du roi. Il avait résisté autant qu'il avait pu, et sa conscience était désormais en repos sur ce qui devait arriver. Il eut craint d'ailleurs, en se refusant plus longtemps au désir de Candole, de contrarier le destin, qui paraissait vouloir le rapprocher de Nicia pour quelque raison formidable et suprême qui ne lui était pas donnée de pénétrer. Sans pressentir aucun dénouement, il voyait vaguement passer devant lui 1000 images tumultueuses et vagues. Cet amour souterrain, accroupi au bas de l'escalier de son âme, avait remonté quelques marches, guidé par une certaine lueur d'espérance. Le poids de l'impossible ne pesait plus si lourdement sur sa poitrine, maintenant qu'il se croyait aidé par les dieux. En effet, qui eût pu penser que pour Gigès, les charmes tant vantés de la fille de Mégabase n'aurait bientôt plus de mystère. « Viens, Gigès, » dit Candole en le prenant par la main. « Profitons du moment. Nicia se promène avec ses femmes dans les jardins. Allons étudier la place et dresser nos stratagèmes pour ce soir. » Le roi prit son confident par la main et le guida à travers les détours qui conduisaient à l'appartement nuptial. Les portes de la chambre à coucher étaient faites d'ais de cèdre, si exactement unis qu'il était impossible d'en deviner les jointures. À force de les frotter avec de la laine imbibée d'huile, les esclaves avaient rendu le bois aussi luisant que le marbre. Les clous d'airain aux têtes taillées à facettes dont elles étaient étoilées avaient tout le brillant de l'or le plus pur. Un système compliqué de courroies et d'anneaux de métal, dont Candole et sa femme connaissaient les entrelacements, servait de fermeture, car en ces temps héroïques, la serrurerie était encore à l'état d'enfance. Candole défit les nœuds, fit glisser les anneaux sur les courroies, souleva avec un manche qu'il introduisit dans une mortaise la barre qui fermait la porte à l'intérieur, et ordonnant à Gigès de se placer contre le mur, il renversa sur lui un des battants de manière à le cacher tout à fait. Mais la porte ne se joignait pas si exactement à son cadre de poutre de chêne, soigneusement poli et dressé au cordeau par un ouvrier habile, que le jeune guerrier ne put à travers l'interstice laisser libre pour le jeu des gonds apercevoir d'une façon distincte tout l'intérieur de la chambre. En face de la porte, le lit royal s'élevait sur une estrade de plusieurs degrés, recouverte d'un tapis de pourpre. Des colonnes d'argent ciselées en soutenaient l'entablement, ornées de feuillages en relief, à travers lesquels des amours se jouaient avec des dauphins. D'épaisses courtines brodées d'or l'entouraient comme les pans d'une tente. Sur l'autel des dieux protecteurs du foyer étaient posés des vases en métal précieux, des patères émaillés de fleurs, des coupes à deux anses et tout ce qui sert aux libations. Le long des murs, garnis de planches de cèdre merveilleusement travaillées, s'adossaient de distance en distance des statues de basalte noir, conservant les poses contraintes de l'art égyptien et tenant au poing une torche de bronze où s'adaptait un éclat de bois résineux. Une lampe d'onyx, suspendue par une chaîne d'argent, descendait de cette poutre du plafond qu'on appelle la noire, parce qu'elle est plus exposée que les autres à être brunie par la fumée. Chaque soir, une esclave avait soin de la remplir d'huile odoriférante. Près de la tête du lit était accroché à une petite colonne un trophée d'armes composé d'un casque à visière, d'un bouclier doublé de 4 cuirs de taureau, garni de lames d'étain et de cuivre, d'une épée à 2 tranchants et de javelots de frêne aux pointes d'airain. À des chevilles de bois pendaient les tuniques et les manteaux de candôle. Il y en avait de simples et de doubles, c'est-à-dire pouvant entourer le corps 2 fois. Remarquez surtout un manteau trempé 3 fois dans la pourpre et orné d'une broderie représentant une chasse où des molosses de Laconie poursuivaient et déchiraient des cerfs, et une tunique dont l'étoffe, fine et délicate comme la pellicule qui enveloppe l'oignon, avait tout l'éclat de rayons de soleil tramé. Vis-à-vis, le trophée d'armes était placé un fauteuil incrusté d'ivoire et d'argent, avec un siège recouvert d'une peau de léopard, tacheté de plus d'yeux que le corps d'Argus, et un marchepied découpé à jour, sur lequel Nicia déposait ses vêtements. « Je me retire d'ordinaire le premier, » dit Candole à Gigès, « et je laisse la porte ouverte, comme elle l'est maintenant. » Nicia, qui a toujours quelques fleurs de tapisserie à terminer, quelques ordres à donner à ses femmes, tarde quelquefois un peu à me rejoindre, mais enfin, elle vient, et comme si cet effort lui coûtait beaucoup, lentement, une à une, elle laisse tomber sur ce fauteuil d'ivoire les draperies et les tuniques qui l'enveloppent tout le jour comme les bandelettes d'une momie. Du fond de ta retraite, tu pourras suivre ses mouvements gracieux, admirer ses attraits sans rivaux et juger par toi-même si Candole est un jeune fou qui se vante à tort et s'il ne possède pas réellement mais la plus riche perle de beauté qui jamais ait orné un diadème. « Oh, roi, je vous croirais, même sans cette épreuve, » répondit Gigès en sortant de sa cachette. « Et quand elle a quitté ses vêtements, » continua Candole, sans faire attention à ce que disait son confident, « elle vient prendre place à mes côtés. C'est à ce moment qu'il faut saisir pour l'esquiver, car dans le trajet du fauteuil au lit, elle tourne le dos à la porte. » Alors suspends tes pas, comme si tu marchais sur la pointe des blés mûrs. Prends garde qu'un grain de sable ne crie sous ta sandale. Retiens ton haleine et retire-toi le plus légèrement possible. Le vestibule est baigné d'ombre et les faibles rayons de la seule lampe qui reste allumée ne dépassent pas le seuil de la chambre. Il est donc certain que Nicia ne pourra t'apercevoir et demain... il y aura quelqu'un dans le monde qui comprendra mes extases et ne s'étonnera plus de mes emportements admiratifs. Mais voici le jour qui baisse. Le soleil va bientôt faire boire ses coursiers dans les flots hespériens, à l'extrémité du monde, au-delà des colonnes posées par mon ancêtre. Les rentre dans ta cachette, Gigès. Et bien que les heures de l'attente soient longues, j'en jure Eros aux flèches d'or, tu ne regretteras pas d'avoir attendu. » Après cette assurance, Candole quitta Gigès, tapis de nouveau derrière la porte. L'inaction forcée où se trouvait le jeune confident du roi laissait un libre cours à ses pensées. Certes, la situation était des plus bizarres. Il aimait Nicia comme on aime une étoile, sans espoir de retour. Convaincu de l'inutilité de toute tentative, il n'avait fait aucun effort pour se rapprocher d'elle. Et cependant, par un concours de circonstances extraordinaires, il allait connaître des trésors réservés aux amants et aux époux seuls. Pas une parole, pas une œillade n'avait été échangée entre lui et Nicia, qui probablement ignorait jusqu'à l'existence de celui pour lequel sa beauté serait bientôt sans mystère. Être inconnu à celle dont la pudeur n'aurait rien à vous sacrifier, quelle étrange position! Aimer en secret une femme et se voir conduit par l'époux jusque sur le seuil de la chambre nuptiale, avoir pour guide vers ce trésor le dragon qui devrait en défendre l'approche, n'y avait-il pas vraiment de quoi s'étonner et admirer les singulières combinaisons du destin? Il en était là de ses réflexions lorsqu'il entendit résonner des pas sur les dalles. C'étaient les esclaves qui venaient renouveler l'huile de la lampe, jeter les parfums sur les charbons des Comclin et remuer les toisons de brebis teintes en pourpre et en safran qui composaient la couche royale. L'heure approchait et Gigès sentait s'accélérer les battements de son cœur et de ses artères. Il eut même envie de se retirer avant l'arrivée de la reine, sauf à dire à Candaule qu'il était resté et à se livrer de confiance aux éloges les plus excessifs. Il lui répugnait, car Gigès, malgré sa conduite un peu légère, ne manquait pas de délicatesse, il lui répugnait de dérober une faveur qu'accordait librement, il eût payé de sa vie. La complicité du mari rendait en quelque sorte ce larcin plus odieux. Il aurait préféré de voir à toute autre circonstance le bonheur de voir la merveille de l'Asie dans sa toilette nocturne. Peut-être bien aussi, avouons-le en historien véridique, l'approche du danger était-elle pour quelque chose dans ses scrupules vertueux ? Gigès ne manquait pas de bravoure, sans doute. Monté sur son char de guerre, son carquois sonnant sur l'épaule, son arc à la main, il eût défié les plus fiers combattants. À la chasse, il eût attaqué sans pâlir le sanglier de Calydon ou le lion de Némée. Mais, explique qui voudra cette énigme, il frémissait à l'idée de regarder une belle femme à travers une porte. Personne n'a toutes les sortes de courage. Il sentait aussi que ce n'était pas impunément qu'il verrait Nicia. Ce devait être une époque décisive dans sa vie. Pour l'avoir entrevue un instant, il avait perdu le repos de son cœur. Que serait-ce donc après ce qui allait se passer ? L'existence lui serait-elle possible lorsqu'à cette tête divine qui incendiait ses rêves s'ajouterait un corps charmant fait pour les baisers des immortels ? Que deviendrait-il si, désormais, il ne pouvait contenir sa passion dans l'ombre et le silence, comme il l'avait fait jusqu'alors ? Donnerait-il à la cour de Lydie le spectacle ridicule d'un amour insensé, et tâcherait-il d'attirer sur lui, par des extravagances, la pitié dédaigneuse de la reine ? Un pareil résultat était fort probable, puisque la raison de Candaule, possesseur légitime de Nicia, n'avait pas pu résister au vertige causé par cette beauté surhumaine. Lui, le jeune roi, insouciant, qui jusqu'alors avait ri de l'amour et préféré à toute chose les tableaux et les statues. Ses raisonnements étaient fort sages, mais fort inutiles, car au même moment, Candaule entra dans la chambre et dit à voix basse, mais distincte, en passant près de la porte, « Patience, mon pauvre Gigès, Nicia va bientôt venir. » Quand il vit qu'il ne pouvait plus reculer, Gigès, qui après tout était un jeune homme, oublia toute autre considération et ne pensa plus qu'au bonheur de repaître ses yeux du charmant spectacle que Candaule lui donnait. On ne peut pas exiger d'un capitaine de 25 ans l'austérité d'un philosophe blanchi par l'âge. Enfin, un léger susurrement d'étoffe frôlée et traînant sur le marbre, que le silence profond de la nuit permettait de discerner, annonça que la reine arrivait. En effet, c'était elle. D'un pas cadencé et rythmé comme une ode, elle franchit le seuil du thalamus et le vent de son voile aux plis flottants effleura presque la joue brûlante de Gigès, qui faillit se trouver mal et fut forcé de s'appuyer à la muraille, tant son émotion était violente. Il se remit pourtant, et s'approchant de l'interstice de la porte, il prit la position la plus favorable pour ne rien perdre de la scène dont il allait être l'invisible témoin. Nicia fit quelques pas vers l'escabeau d'ivoire et commença à détacher les aiguilles terminées par des boules très creuses qui retenaient son voile sur le sommet de la tête, et Gigès, du fond de l'angle plein d'ombre où il était tapis, put examiner à son aise cette physionomie fière et charmante qui n'avait fait qu'entrevoir. Ce col arrondi, délicat et puissant à la fois, sur lequel Aphrodite avait tracé de l'ongle de son petit doigt les trois légères raies que l'on appelle encore aujourd'hui le collier de Vénus, cette nuque où se tordaient dans l'albâtre de petites boucles folles et rebelles, ces épaules argentées qui sortaient à demi de l'échancrure de la chlamyde comme le disque de la lune émergeant d'un nuage opaque, Kando, à demi soulevé sur ses coussins, regardait sa femme avec une affectation distraite et se disait à part lui « Mais maintenant, Gisès, qui a l'air si froid, si difficile et si dédaigneux, mais elle doit être à moitié convaincue. » Ouvrant un coffret placé sur une table dont le pied était formé par des griffes de lion, la reine délivra du poids des bracelets et des chaînes de pierreries dont ils étaient surchargés, ses beaux bras, qui auraient pu le disputer pour la forme et la blancheur à ceux d'Héra, la sœur et la femme de Zeus, roi de l'Olympe. Quelque précieux que fussent ces joyaux, ils ne valaient assurément pas la place qu'ils couvraient. Et si Nicia eût été coquette, on eût pu croire qu'elle ne les mettait que pour se faire briller de les ôter. Les anneaux, les ciselures avaient laissé sur sa peau fine et tendre, comme la pulpe intérieure d'un lys, de légères empreintes roses qu'elle eut bientôt dissipées en les frottant de sa petite main aux phalanges effilées, aux extrémités rondes et menues. Puis, avec un mouvement de colombe qui frissonne dans la neige de ses plumes, elle secoua ses cheveux, qui n'étant plus retenus par les épingles, roulèrent en spirales alanguies sur son dos et sur sa poitrine, semblables à des fleurs d'hyacinthe. Elle resta quelques instants avant d'en rassembler les boucles éparses, qu'elle réunit ensuite en une seule masse. C'était merveille de voir les boucles blondes ruisseler comme des jets d'or entre l'argent de ses doigts, et ses bras onduleux comme des cols de cygne s'arrondir au-dessus de sa tête pour enrouler et fixer la torsade. Si par hasard vous savez jeter un coup d'œil sur un de ces beaux vases étrusques à fond noir et à figure rouge, ornés d'un de ces sujets qu'on désigne sous le nom de toilette grecque, vous aurez une idée de la grâce de Nicia dans cette pose qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, a fourni tant d'heureux motifs aux peintres et aux statuaires. Sa coiffure arrangée, elle s'assit sur le bord de l'escabeau d'ivoire et se mit à défaire les bandelettes qui retenaient ses cothurnes. Nous autres modernes, grâce à notre horrible système de chaussures, presque aussi absurde que le brodequin chinois, nous ne savons plus ce que c'est qu'un pied. Celui de Nicia était d'une perfection rare, même pour la Grèce et l'Asie antique. L'orteil légèrement écarté, comme un pouce d'oiseau, les autres doigts un peu longs, rangés avec une symétrie charmante, les ongles bien formés et brillants comme des agates, les cheveux fines et dégradés, le talon imperceptiblement teinté de rose, rien n'y manquait. La jambe, qui s'attaquait à ce pied et prenait au reflet de la lampe des luisants de marbre poli, était d'une pureté et d'un tour irréprochable. Gigès, absorbé dans sa contemplation, tout en comprenant la folie de Candole, se disait que si les dieux lui eussent accordé un pareil trésor, il aurait su le garder pour lui. « Eh bien, Nicia, vous ne venez pas dormir près de moi ?» fit Candole, voyant que la reine ne se hâtait en aucune manière et désirant abréger la faction de Gigès. « Si, mon cher seigneur, je vais avoir fini, » répondit Nicia. Et elle détacha le camé qui agrafait son péplum sur son épaule. Il ne restait plus que la tunique à laisser tomber. Gigès, derrière la porte, sentait ses veines siffler dans ses tempes. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on dût l'entendre de la chambre, et pour en comprimer les pulsations, il appuyait sa main sur sa poitrine. Et quand Nicia, avec un mouvement d'une grâce nonchalante, dénoua la ceinture de sa tunique, il crut que ses genoux allaient se dérober sous lui. Nicia, était-ce un pressentiment instinctif ou son épiderme entièrement vierge de regard profane avait-il une susceptibilité magnétique si vive qu'il pût sentir le rayon d'un œil passionné quoique invisible? Nicia parut hésiter à dépouiller cette tunique, dernier rempart de sa pudeur. Deux ou trois fois, ses épaules, son sein et ses bras nus frémir avec une contraction nerveuse, comme s'ils eussent été effleurés par l'aile d'un papillon nocturne, ou comme si une lèvre insolente eût osé s'en approcher dans l'ombre. Enfin, paraissant prendre sa résolution, elle jeta à son tour la tunique, et le blanc poème de son corps divin apparut tout à coup dans sa splendeur, telle que la statue d'une déesse qu'on débarrasse de ses toiles le jour de l'inauguration d'un temple. La lumière glissa en frissonnant de plaisir sur ses formes exquises et les enveloppa d'un baiser timide, profitant d'une occasion hélas bien rare, les rayons éparpillés dans la chambre, dédaignant d'illuminer les urnes d'or, des agrafes de pierreries et des trépieds d'airain, se concentrèrent tous sur Nicia, laissant les autres objets dans l'obscurité. Si nous étions un grec du temps de Périclès, nous pourrions vanter tout à notre aise ces belles lignes serpentines, ces courbures élégantes, ces flancs polis, ces seins à servir de moule à la coupe d'Hébé. Mais la pruderie moderne ne nous permet pas de pareilles descriptions, car on ne pardonnerait pas à la plume ce qu'on permet au ciseau, et d'ailleurs il y a des choses qui ne peuvent s'écrire qu'en marbre. Candole souriait d'un air de satisfaction orgueilleuse. D'un pas rapide, comme toute honteuse d'être si belle, n'étant que la fille d'un homme et d'une femme, Nicia se dirigea vers le lit, les bras croisés sur la poitrine. Mais, par un mouvement subit, elle se retourna avant de prendre place sur la couche à côté de son royal époux, et vit, à travers l'interstice de la porte, flamboyer un œil étincelant comme l'escarboucle des légendes orientales. Car s'il était faux qu'elle eût la prunelle double et qu'elle possédât la pierre qui se trouve dans la tête des dragons, il était vrai que son regard vert pénétrait l'ombre comme le regard glauque du chat et du tigre. Un cri, pareil à celui d'une biche qui reçoit une flèche dans le flanc, au moment où elle rêve tranquille sous la feuillée, fut sur le point de lui jaillir du gosier. Pourtant, elle eut la force de se contenir et s'allongea auprès de Candole, froide comme un serpent, les violettes de la mort sur les joues et sur les lèvres. Pas un de ses muscles ne tressaillit, pas une de ses fibres ne palpita, et bientôt sa respiration lente et régulière dut faire croire que Morphée avait distillé sur ses paupières le suc de ses pavots. Elle avait tout deviné et tout compris.